Interview.
1. Interview du jour.
Le sang n'a pas coulé, mais le rêve endormi flotte sur les vagues. Est-ce le cœur de la Méditerranée ou les cœurs de ces naufragés, ce battement ultime?
Merci Issa Maclouf, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes sur RDWA 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Nouvelle interview dans le cadre du Festival Est-Ouest de cette année 2016 avec le Liban en invité. J'ai devant moi une petite fiche, Issa, vous êtes écrivain et poète, né au Liban et vivant à Paris, ce qui m'arrange complètement parce qu'au moins vous parlez très très bien français. Est-ce qu'on pourrait commencer par présenter ce texte que vous venez de nous lire en introduction ?
Oui, c'est un texte qui vient de paraître dans un petit livre en forme d'accordéon, publié aux éditions Imprévues. Par une poétesse qui s'appelle Elisabeth Chabuel, et elle l'a publié dans le cadre de ce festival consacré au Liban. Dans ce petit livre, il y a 6 textes inédits, dont un, celui que je viens de lire, qui part de cette situation terrible que les gens vivent entre les deux rives de la Méditerranée, qui parle de ces naufragés, de ces hommes, femmes, enfants, qui essayent de fuir leur pays en guerre, de fuir la mort violente. Mais malheureusement, une partie de ces gens n'arrive pas à traverser la Méditerranée, n'arrive pas jusqu'à l'autre rive, et ils noient dans la Méditerranée qui s'est transformée en ces dernières années en un grand cimetière, malheureusement.
Et en plus, de l'autre côté, quand ils sont passés, ils ne sont pas forcément bien accueillis non plus. Alors,
Là, c'est un autre problème. C'est un problème très compliqué et très délicat, le problème des réfugiés, soit au niveau européen ou bien au niveau mondial. Parce que tout le monde sait qu'il y a des pays arabes qui ont refusé de recevoir ces émigrés. Au lieu d'aller, par exemple, dans des pays proches, ils ont dû prendre la fuite et prendre la Méditerranée dans des bateaux de fortune qui ne sont pas capables de transporter des centaines de personnes qui cherchent la fuite. Il n'y a que le Liban.
Oui, c'est ça, c'est
qui
pas le cas du Liban.
Reçoit maintenant, il y a environ 1,5 million de réfugiés syriens seulement qui habitent au Liban. Et ça aussi, ça crée un problème pour le Liban et les Libanais, parce que l'équilibre confessionnel et autre est très fragile et aléatoire au Liban. 1,5 million dans un pays qui compte 4 millions de personnes, c'est beaucoup. C'est comme si je vous dis, par exemple, il y a 17 ou 18 millions de réfugiés qui vont arriver demain en France. C'est presque le tiers de la population. Ça, c'est un problème à résoudre au niveau mondial. C'est l'ONU qui doit aussi réfléchir à résoudre ce problème. Et les grandes puissances, les pays occidentaux, qui sont en train de faire ce qu'ils peuvent. Ça dépend de quel pays. Par exemple, Madame Merkel, en Allemagne, elle a reçu beaucoup d'immigrés. Mais là, à chaque moment, on la critique. Et même chez elle, en Allemagne, on la critique parce qu'elle a suivi cette politique qui, pour certains Allemands, va à l'encontre de l'équilibre aussi de la société allemande. C'est pour cela que je dis que c'est une question compliquée et difficile. Humainement parlant, il faut les recevoir, mais il faut qu'il y ait une politique, que tous ces États y participent.
Si j'étais un peu utopiste, Issa Maclouf, je dirais que l'ONU, au lieu de se charger de la question de comment tous les États enfin, puissent recevoir les réfugiés, il faudrait commencer par arrêter de se faire la guerre, peut-être. Et puisque vous me lancez sur les sujets des réfugiés au Liban, pourquoi est-ce que le Liban a accepté, contraint ou pas d'ailleurs, vous allez me le dire,
mais vous savez
d'accueillir
que
des réfugiés?
Le Liban, d'abord, il y a relation historique avec la Syrie. La Syrie et le Liban, ce sont deux pays qui ont une histoire commune. Il y a beaucoup de parenté entre les deux sociétés. Le problème, c'est avec le régime qui est contre les deux sociétés, et la société libanaise et la société syrienne.
Le régime de Bachar al-Assad.
Parce que quand on bombarde son peuple avec des barils pleins d'explosifs, sans se rendre compte ni des enfants, ni des femmes, ni des vieillards, contre tout le monde, tout en disant que c'est contre les terroristes, moi je trouve que c'est absurde et c'est criminel. Le Liban a dû les recevoir, même si l'équilibre libanais ne supporte pas ce chiffre énorme. Et il ne faut pas oublier que le Liban n'est pas encore sorti complètement des conséquences de la guerre civile qui a duré 15 ans. C'est un pays au niveau politique et fragilisé. Il est sorti de la guerre très fragile. Mais là, j'aimerais bien mentionner qu'il y a deux Libans. Il y a un Liban politique, le Liban des politiciens, des gens divisés, des gens qui se comportent avec le côté pluriel du Liban d'une façon confessionnelle, au lieu de prendre le côté positif de la pluralité libanaise, ils prennent le côté négatif qui engendre des guerres civiles tous les 10 ans, 20 ans. Tandis que le côté culturel, c'est un autre Liban. C'est ce Liban qui est invité aujourd'hui à dire. C'est un Liban qui est pluriel et non confessionnel. C'est un Liban laïque, ouvert, et c'est un Liban qui joue un rôle que le Liban a toujours joué depuis le 19e siècle jusqu'à maintenant. Cela veut dire le pont entre Orient et Occident, entre le Mashrek et le Maghreb. C'est pour cela que j'insiste sur ce point, qu'il n'y a pas qu'un seul Liban, il y a deux Libans. Hadi, il y a l'autre visage, le visage éclairé, le visage culturel du Liban et des Libanais.
Ce Liban politique vient-il enfreindre le Liban culturel dont vous parlez ?
C'est un grand défi, parce que même si les intellectuels au Liban veulent faire quelque chose, ils ont beaucoup de contraintes, beaucoup de difficultés. Ce n'est pas un chemin ouvert et facile et tranquille. Mais malgré cela, il y a des gens qui ne font que ça, affronter ces défis, essayer de les dépasser et de résoudre des problèmes, de montrer le vrai visage, l'autre visage du Liban, comme c'est le cas aujourd'hui ici ou partout, là où il y a des festivals qui consacrent des colloques ou bien des rencontres, des conférences concernant le Liban.
Ce que je voulais dire, c'est l'art est-il libre ? Vous êtes libre de dire ce que vous voulez ?
Oui, oui, au
même,
Liban.
Bon, vous vivez à Paris, mais...
Même au Liban, jusqu'à maintenant, et malgré toutes les contradictions politiques et religieuses, confessionnelles au Liban, il y a toujours une marge de liberté qui n'existe nulle part ailleurs au Moyen-Orient. Et je crois que ça vient, c'est dû à ce côté pluriel du Liban. Parce qu'il y a 18 confessions au Liban. Le chrétien ne veut pas vivre comme vit, par exemple, un musulman extrémiste. Et il n'y a pas que des musulmans extrémistes au Liban. Il y a des musulmans qui ne ressemble pas à d'autres musulmans dans d'autres pays arabes. Par exemple, un musulman libanais ne ressemble pas à un musulman en Arabie saoudite, par exemple. Ça veut dire qu'au Liban, il y a une marge de liberté qui n'existe pas ailleurs. On est même capable de dire des choses érotiques, pornographiques, même politiques, mais... Il y a des tabous, surtout quand il s'agit de la religion. Là, peut-être la censure s'impose. Mais malgré cela, il y a des gens qui sont capables de critiquer les positions des religieux au Liban.
Et quand vous parliez de ces guerres civiles au Liban, c'est vraiment la population qui se bat l'une contre l'autre, souvent d'un point de vue confessionnel. Et ça n'a pas été une politique qui a agressé son peuple, comme on le parle là sur la Syrie.
Oui, ça veut dire que la guerre civile a pris fin. Mmh. Elle a duré 15 ans. Et maintenant, le Liban vit une paix menacée, bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que la situation géographique du Liban est très difficile. C'est un grand défi pour le Liban et les Libanais, parce que c'est un pays qui est au Moyen-Orient, inséré entre la Syrie d'un côté et l'Israël de l'autre côté. Et vous savez bien qu'il y a un problème israélo-palestinien qui dure depuis très longtemps, 60, 70 ans, depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Alors c'est un pays qui affronte beaucoup, beaucoup de défis, intérieurs et extérieurs, subjectifs et objectifs. Et c'est pour cela que les choses sont compliquées là-bas. Mais malgré cela, il y a une vie culturelle, artistique, théâtrale, la publication des livres, les salons du livre, le salon du livre francophone à Beyrouth figure parmi les trois premiers salons du livre francophone dans le monde. Cela veut dire que c'est un pays où il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de force, de cette énergie qui veut faire quelque chose, qui veut dépasser même les conditions de vie imposées par la politique.
On pourrait, Issa Maklouf, s'il vous plaît, faire un petit peu votre biographie, si vous vouliez citer à nos auditrices, auditeurs, ce que vous avez fait avant aujourd'hui. D'où vous venez? Qu'est-ce que vous avez fait comme étude?
Je viens du Liban. Je suis né dans un village, une petite ville qui s'appelle Sgorta, à côté de Tripoli, la deuxième grande ville au Liban. La population passe l'hiver à Sgorta et l'été à Ehden, à 30 km dans la montagne libanaise, juste à côté des cèdres et de la vallée sainte, la Kadisha, et à côté de Béchare, là où est né Gibran, Khalil Gibran aussi. J'ai fait mes études à Tripoli, primaire et secondaire, au Collège des Frères à Tripoli, avant la guerre.
Et en français, donc
En français. Ouais. Et quand la guerre a éclaté, moi j'étais à Beyrouth quand la guerre a éclaté, j'étais inscrit en première année à l'université. Mais quand la guerre a éclaté, je n'ai pas pu continuer mes études au Liban. J'ai dû revenir à Sgorta parce que le Liban s'est divisé entre chrétiens et musulmans. Et moi, je viens d'une localité chrétienne, les Maronites. Mes parents sont Maronites, même si moi, je suis en dessus de toutes les religions monothéistes, ou bien de tout ce qui est comme ça, figé, comme dogme. J'ai peur des dogmes, parce que maintenant, il y a des gens qui sont capables, toujours comme toujours, de faire la guerre au nom des religions. Moi, je peux écrire, le fait d'écrire, c'est pour moi, c'est comme une sorte de foi. Le fait de regarder une peinture, c'est aussi la même chose, ou bien de regarder cette belle nature autour de nous, ces montagnes, ça m'impressionne beaucoup. Ce qui compte pour moi, c'est l'humain, mais l'humain ouvert, l'autre, le respect de l'autre, le fait d'accepter la différence, parce que je crois que toutes les guerres sont issues de cette question-là. Quand on dit que ma religion est la meilleure, la guerre commence, éclate. Quand je dis que ma nationalité est la meilleure, la guerre éclate. Quand je dis que c'est moi qui détiens la vérité, ça y est, c'est la guerre. Parce qu'en disant cela, j'exclus l'autre. L'autre n'existe pas. Et comme ça, je légitime le fait de l'écraser. Et c'est pour cela que moi, j'essaye le maximum possible d'être loin de tout ça. En tant qu'écrivain et en tant comme je me situe, dans le beau à travers ce que j'écris et dans l'humain. J'ai travaillé quand je suis sorti du Liban. Mes parents m'ont envoyé au Venezuela. Là-bas, j'ai un oncle qui vivait depuis très longtemps. C'est un commerçant, comme une partie des Libanais, qui ont suivi la leçon de leurs ancêtres, les Phéniciens. Ma mère m'a envoyé là-bas pour passer 2 ou 3 semaines seulement, selon les dits de mes parents, afin que la guerre prenne fin, mais la guerre a duré 15 ans. Alors j'ai quitté Caracas et je suis venu à Paris. Je me suis enregistré à Paris 5. J'ai commencé la licence, puis maîtrise, DEA et doctorat en anthropologie sociale et culturelle. J'ai continué à travailler dans la presse parce que même avant d'avoir mes diplômes, j'étais journaliste pour que je puisse vivre à Paris. J'ai dû faire ce boulot. Mais je continue à le faire parce que le journalisme me donne toujours la possibilité d'avoir quelques minutes de plus pour écrire, pour voyager, pour lire. En 2006-2007, j'ai travaillé à l'ONU aux États-Unis, à New York, en tant que conseiller des affaires culturelles. Mais j'ai laissé New York malgré toute l'énergie que j'ai sentie à New York.
Pardon de vous couper, mais comment on arrive à l'ONU ? On vous a cherché ou c'est vous qui...
On m'a cherché parce que comme les gens qui m'ont appelé, ce sont des gens qui ont lu mes livres, qui m'écoutent à la radio parce que j'avais des programmes à la radio. Et puis, on m'a appelé pour écrire les discours du président de l'Assemblée générale et écrire les conférences qu'il présentait dans telle ou telle université. Pour moi, c'était l'occasion d'aller découvrir un peu plus profondément. Je connaissais déjà New York, mais pour être dedans, quoi.
Vive l'américanisme.
Comment le mécanisme, parce que c'est un mécanisme tout à fait différent que celui que nous vivons en France. La culture fonctionne autrement là-bas. Là-bas, il y a beaucoup l'initiative privée, tandis qu'ici, il y a un ministère de la culture, et puis il y a un budget consacré à la culture, tout ça. Voilà. Mais c'était pour moi une expérience fantastique avant de revenir à Paris, parce que moi, j'aime beaucoup cette ville. Et j'ai fait ma deuxième naissance à Paris. Et c'est une ville qui est inépuisable au niveau culturel. Là, à Paris, je me sens que je suis dans le monde entier. Parce que dans ces musées, dans ces bibliothèques, dans ces librairies, dans ces salles de théâtre, de musique, dans ces jardins, tout, c'est une ville qui nous ramène et le Japon, et la Chine, et l'Italie, et le Liban. Le monde entier bouillonne dans cette ville qui est, à mes yeux maintenant, la capitale de la culture du monde. Même si quelqu'un d'autre dit que c'est New York maintenant et Paris était la capitale au 19e siècle, la capitale culturelle. Moi, je continue à dire que c'est la capitale culturelle parce que c'est une ville dédiée à la culture et qui a beaucoup donné à la culture, pas seulement en France et pour les Français, mais cette aura s'étend dans le monde entier, surtout à partir du 18e siècle. Le siècle des Lumières, avec des philosophes comme Voltaire, comme Diderot. Quand on lit ce que Voltaire a écrit sur les religions, c'est comme s'il a écrit ses textes aujourd'hui même. Pour finir, j'aime bien revenir à l'ONU, dire un mot que le dernier livre, qui s'intitule « Une ville dans le ciel », c'est un livre que j'ai commencé à écrire à l'ONU. Parce qu'en arrivant là-bas, j'ai découvert le vrai visage de l'ONU, qui se cache derrière les masques que nous connaissons à travers les conférences de presse faites là-bas. J'ai découvert deux ONU. Dans ce bâtiment, cette tour qui a été faite par un grand architecte, qui est Le Corbusier, c'est une œuvre d'art, c'est comme une sculpture, avec ces vitres que j'appelle des vitraux, qui reflètent les lueurs du soleil du matin jusqu'au soir. Dans ce bel immeuble, il y avait, quand j'étais, 192 représentants de 192 pays. Ça veut dire, c'est la synthèse, le microcosme du monde entier. Et dedans, tout le monde est poli. Tout le monde est bien habillé, tiré à quatre épingles, avec des cravates, des chaussures bien serrées. Et qui sont très sympathiques et très polis quand les ambassadeurs rencontrent les autres ambassadeurs d'autres pays. Vous ne pouvez pas imaginer avec quelle politesse et avec quel sourire professionnel. Et parfois, des accolades et ils s'embrassent parfois. Et c'est l'endroit où l'on prononce le plus le mot « paix ». Mais c'est l'endroit où on fabrique les guerres. Parce que c'est un endroit où on vide les mots de leur sens. On parle de la paix pour désigner la guerre, de l'amour pour cacher la haine, et ainsi de suite. En tant qu'écrivain et poète, pour fuir un petit peu cette réalité insupportable, parce que j'ai mis ma main sur la source des problèmes dans le monde, j'ai compris comment il y a des États qui ne veulent pas qu'il y ait de la paix. dans tel ou tel pays, que la guerre est bénéfique, et pour l'économie, et pour les intérêts de tel ou tel pays. Et là, j'ai découvert l'autre facette de cette pièce de théâtre. Et de mon bureau, je regardais par la fenêtre et je voyais une sculpture de Henry Moore, le sculpteur britannique. Une sculpture magnifique, parce que moi, j'aime beaucoup l'œuvre de Henry Moore. Et là, j'ai commencé comme un dialogue intérieur avec cette sculpture, pour dire que l'être humain est capable de faire autre chose que la guerre. Il peut sculpter, il peut faire une belle œuvre d'art. J'ai essayé de questionner la beauté, cette beauté, la beauté, la création artistique et littéraire, tout en me posant la question suivante. Est-ce que cette beauté aussi, auquel je fuis, je prends refuge, est-ce qu'elle est aussi faite à base de la guerre ou bien à base de l'injustice, à base de l'humiliation et de l'exclusion? Oui, en général, malheureusement, c'est le cas. Quand je regarde maintenant de loin, de 4000, 5000 ans, l'Égypte, et je vois ces grands chefs-d'œuvre comme par exemple les pyramides qui ont été construites par des esclaves qui mouraient sous le poids des pierres et de la souffrance et de la solitude et de l'humiliation. Mais cette œuvre, elle est restée là et on oublie souvent qu'est-ce qu'il y a derrière, qui a construit tout ça.
À chaque fois, il est question de soumission, en fait. Hein. Issa Maklouf, je voudrais qu'on parle maintenant sur Erdiwa, du moment, à quel moment vous vous êtes mis à écrire et pourquoi?
Parfois, l'écrivain lui-même se pose la question, pourquoi j'écris? Pourquoi la nature m'a choisi pour écrire? Georges Chehadé, c'est un poète libanais en langue française, a dit une phrase une fois qui me paraît juste. Il a dit « Les écrivains croient qu'ils écrivent, mais nos pauvres sont les écrivains. C'est le temps qui écrit. » Cela veut dire on est là, on ne sait pas pourquoi on s'exprime. Et quand on s'exprime, on va au fond de nous-mêmes, dans un endroit où le jeu est multiple. Et c'est pour cela que quand on sort de cet endroit, quand on met ce qu'on écrit sur une page blanche, ça devient la propriété de tous ceux qui lisent le texte, de tout le monde. Et parfois, ces gens se miroitent, les lecteurs se miroitent dans ce que nous écrivons. Ce qui veut dire que, par hasard, moi j'écris. Je ne sais pas pourquoi je suis devenu écrivain. J'aurais pu être un criminel aussi. Il y a un jeu de hasard. Par hasard, je ne suis pas un criminel. Par hasard, je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un menteur. Et celui qui a bien étudié cette question, et depuis le XVIIIe siècle, c'est Denis Diderot. Denis Diderot, et avant toute l'évolution scientifique, maintenant, il y a des études qui décortiquent qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau humain. Pourquoi on fait ça, pas ça? Pourquoi on a un penchant vers telle chose et pas vers telle chose? Certainement, il y a des raisons subjectives et d'autres objectives. Il y a le milieu, il y a la famille, mais il y a autre chose aussi. Il y a quelque chose qui nous dépasse, que nous n'arrivons insaisissable. Il y a l'insaisissable. On ne sait pas, on est là. On ne sait pas, puisqu'on ne sait pas l'essentiel. Quand est-ce que nous vivons, nous naissons et quand est-ce que nous mourons? On ne sait pas. Si on ne sait pas ces deux dates qui sont essentielles, sauf si on prend la décision de se suicider et on ne veut pas se suicider, puisque la vie nous est très chère, malgré toutes les difficultés. Mais puisqu'on ne maîtrise pas les dates essentielles de notre vie, moi parfois je me demande qu'est-ce que nous maîtrisons en fin de compte. Nous maîtrisons peut-être, puisqu'on est, nous avons un cerveau et la pensée, si on peut arrêter ce massacre qui a commencé du début de l'humanité et qui continue jusqu'à maintenant, malgré tout le progrès technique et technologique et tout le progrès scientifique, l'être humain n'a pas su encore freiner ces pulsions de mort dont parlait Freud, cette violence qui est en nous et parfois que nous subissons. Voilà, c'est ça, je vis dans le questionnement, parce que moi je crois que le monde entier est divisé par deux. Il y a une minorité qui vit dans les questions toute la vie, et l'autre partie qui est la majorité qui vit dans les réponses toute la vie. Les réponses déjà établies, données.
Alors peut-être, en changeant un peu ma question, quel élément du hasard vous a, quel premier sujet vous a fait écrire ?
Peut-être la violence, peut-être aussi. Pourquoi ? Parce que moi, je suis né dans une localité où il y avait, à l'époque où je suis né, cette sorte de vendetta connue, par exemple, dans quelques localités italiennes, dans quelques localités, peut-être en Corse avant. C'est dans cette zone, il y avait 5 familles. Mais ces 5 familles sont entretuées entre elles. Et mes parents m'ont envoyé chez les sœurs pour faire en tant que garderie. Et puis, j'ai commencé à apprendre, pas à lire, à voir les chiffres, les lettres, etc. À apprendre des chansons et des livres d'enfants. Mais là-bas, tout en étant, une fois, par exemple, j'étais à l'église parce que tous les matins, il y a une messe. Et tous les élèves là-bas viennent, tous les enfants viennent assister à la messe avec les sœurs. Tout en étant là-bas, les tirs ont commencé à l'extérieur. Les sœurs nous ont demandé de se mettre sous les bancs à l'église. Et on est resté pendant une trentaine de minutes, même plus, en attendant que les tirs s'arrêtent dehors et qu'ils ramassent les corps des gens qui ont été assassinés. Et puis, vous imaginez dans quel décor ? C'est pas du théâtre, c'est pas du cinéma, c'est la vie courante. Peut-être cela, avec autre chose qui m'échappe maintenant, était derrière le fait de m'exprimer. Parce que c'est quoi écrire ? C'est de s'enfoncer en soi pour ressortir. C'est une sorte d'oxygène. C'était pour moi de l'oxygène, le fait d'écrire, de lire. Pour moi, c'était comme une sorte d'élargir le monde autour de moi. La réalité dure, d'essayer de la dépasser, comme l'a dit Nietzsche, par exemple. C'est dans ce contexte que l'écriture m'est venue.
Eh bien, je suis content, j'ai ma réponse, Issa Maclouf.
Merci.
vous avez écrit, alors là, je regarde, 7 ouvrages, en tout cas, j'ai 7 ouvrages présentés sur ma petite fiche. Vous les avez écrits en étant plus au Liban. Vous avez traversé le Venezuela, voilà, l'Amérique latine, l'Europe, la France. Est-ce que c'est le Liban encore qui vous porte quand même comme sujet de prédilection ?
Le Liban, il est toujours présent. Vous savez, même si on est loin, par exemple, de mon côté, la guerre me façonne toujours, même si j'habite en France depuis longtemps. J'ai habité en France beaucoup plus qu'au Liban. Moi, je suis sorti du Liban quand j'avais 19 ans. Et puis, le temps passe vite. Mes expériences, mon voyage en Amérique latine, aux États-Unis, mon séjour en France, tout cela, c'était comme des strates dans mon expérience et des strates enrichissantes, parce que toute cette écriture, toute cette lecture, tout cela est venu enrichir mon expérience d'écrivain et de poète. Et puis, j'ai écrit 2 livres, 3 livres au Liban, mais le reste, l'essentiel, je l'ai écrit ici, en France, bien sûr.
Il y a un monde entre être écrivain et être poète. Que vous permet l'un et l'autre ?
Christian Bobin, l'écrivain français, disait qu'il nous faut entre 2 heures et 3 heures pour lire un roman. Mais il nous faut toute une vie pour lire un poème. Bon, je trouve que c'est fantastique. Parce que la poésie, c'est un art majeur. C'est la musique. C'est l'être qui vibre. C'est la nature qui est dedans. Le souffle premier. Mais malheureusement, la poésie, maintenant, est marginalisée.
Pourquoi ?
Comme tout ce qui est essentiel. Parce que tout ce qui ne se transforme pas en produit de consommation, tout ce que je n'arrive pas à vendre, la vente et l'achat, n'existe pas, même si c'est la voix de Maria Callas. Si Maria Callas chante maintenant, sans être soutenue dans, à la salle Pléiel ou dans d'autres salles, par l'État, elle ne peut pas rassembler l'argent qu'il faut pour monter tel ou tel opéra. Alors Maria Callas ne peut pas monter sur scène pour produire un de ses spectacles.
Et pourquoi la poésie ne se vend pas ?
Je m'excuse de citer plusieurs citations de plusieurs écrivains, mais ça m'aide à être bref. Pierre Bourdieu, le sociologue français, a résumé la situation en deux mots. Il a dit que tout ce qui a fait la gloire de la culture occidentale, depuis les Grecs, 500 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à maintenant, cela veut dire la poésie, le théâtre, la philosophie, la pensée, tout cela est marginalisé maintenant. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas transformer cela dans le système capitaliste sauvage. Nous ne pouvons pas le transformer en produit de consommation à grande échelle. Il faut vendre la poésie comme on vend le McDonald's ou bien le Coca-Cola. Nous vivons l'ère de la mondialisation. Coca-Cola, c'est quelque chose de mondial. Mais ce n'est pas bien du tout pour la santé. McDonald's, mondial. Mais ce n'est pas bien pour la santé. On ne peut pas vendre la poésie comme on vend le McDonald's ou la Coca.
Et puis c'est dommage, ça serait peut-être bon pour la santé. Alors ça,
pour la santé morale aussi, oui. Pour l'être humain, pour l'esprit. C'est ça le problème maintenant. On vit un décalage énorme entre le progrès technique, technologique, sans égal dans l'histoire, le progrès scientifique, énorme, magnifique. On a tout le monde entre nos mains dans l'iPhone ou bien sur l'iPad, etc. Mais en même temps, on est toujours au niveau instinctif quand il s'agit de la concurrence, la guerre, la violence, la jalousie, le fait d'écraser l'autre pour être à sa place. Et je crois que cela est une des raisons essentielles de la violence qui domine le monde maintenant. C'est la mondialisation de la peur. C'est la mondialisation de la violence, de l'anxiété, de la guerre. On n'est nulle part tranquille et on ne peut pas vivre la quiétude que nous tentons vivre. C'est ça le problème à l'heure actuelle. C'est qu'il y a un système économique qui se comporte avec les gens comme des chiffres et pas comme des êtres humains. La philosophie réveille l'humain dans l'être humain. La poésie, c'est l'homme, c'est l'être humain, c'est la femme, c'est la nature, c'est les animaux, c'est les nuages. Mais là, on est dans un système qui est en train de détruire cet aspect, ce côté, cette facette, cet élément vital. Et c'est pour cela qu'on est en train de menacer la vie sur Terre. On a pollué l'air. 90%, même plus, des zones habitables dans le monde, et ça c'est la dernière étude qui a été publiée il y a deux semaines, est polluée. 90%. C'est-à-dire une zone qui couvre 90% de la planète est polluée. Pollution de l'air, pollution de la mer, le trou d'ozone, l'Antarctique. On est menacé. Ce que l'homme est en train de faire maintenant, surtout pour l'économie, pour l'argent, pour le gain, et pour le gain d'une partie de l'humanité, qui ne dépasse pas les 10%. Si je vais être optimiste, je dirais 20%. Et le reste, c'est vraiment la misère totale. Il y a 1 milliard de personnes tous les soirs qui n'arrivent pas à dîner, à manger avant de dormir. Il y a autant de gens qui ne sont pas capables de boire de l'eau potable. Et l'ONU, dont on vient de parler au début de cette omission, ne cesse de nous parler de comment on va combattre la famine jusqu'à 2000. 2000 est passé, elle est derrière nous. Maintenant jusqu'à 2020, puis après 2050. Parce que l'équilibre est comme ça maintenant. Ou bien l'humanité se réveille pour changer cet équilibre, ou bien, malheureusement, on va vers la prophétie, ce n'est pas dans le sens religieux, dans le sens scientifique, qu'a dit l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, que la Terre a existé des millions d'années avant l'être humain, et l'être humain, il va s'éclipser des millions d'années avant la fin de la Terre, si on continue comme ça.
Issa Maclouf, c'est donc un peu de tout cela qu'on trouve dans vos ouvrages, et je voudrais aussi qu'on parle, chers confrères, de votre poste actuel de directeur de l'information à Radio Orient.
Je travaille à Radio Orient depuis un certain temps. J'essaye d'être le maximum objectif et libéral possible, surtout par les temps difficiles où nous vivons maintenant, très loin de tout ce qui est capable de semer la zizanie, la distinction entre tel et tel peuple, telle et telle culture. Je fais de mon mieux là où je suis. Mais en même temps, quand je reviens à moi-même, je cherche une minute pour lire et écrire, comme je vous ai dit au début de cette rencontre. Et si vous voulez, je peux vous lire quelque chose qui peut illustrer un petit peu les propos que je viens d'avancer. C'est vrai que cette poésie, ces textes partent d'un certain réel, d'une certaine histoire, mais ce ne sont pas des textes réalistes ni historiques. Ils vont vers la fiction, vers autre chose, mais ça se situe toujours dans nos préoccupations quotidiennes. Puisqu'on parlait tout à l'heure de la planète et du sort de la planète, la Terre est belle. Beau le nuage qui s'en va seul dans le ciel, semblable à un oiseau perdu et désorienté dans son vol. Beau les astres aux étranges, aux inquiètes lumières, gardiens de l'espace infini. Ils t'observent de loin, te connaissent, mais tu ne les connais pas. Aurait-il donc de la compassion pour toi qui ignore ce qui t'attend dès le seuil ? À moins que ces étoiles n'oublient que leur sort est aussi le tien. Tendre est la clémente brise, touchant les fronts dans l'été lointain des îles. Tendre les pluies agiles sur l'herbe sèche. Tendre est le parfum de la femme inconnue qui va son chemin près de toi. Belle fut notre rencontre avant de trébucher sur les détails. Elle avait l'allure d'un croissant de lune auquel étaient suspendus nos rêves. Belle est la terre lorsque l'âme la quitte, tel un astronaute à travers sa vitre. Je la vois bleue, illuminée de l'intérieur. Elle lève ses voiles blancs et me précède là où je vais. Belle planète, notre terre, allant vers sa fin avec un étrange délice.
Vous écrivez comment, en arabe ou en français ?
Les textes littéraires en arabe, et on les traduit après. Il y a des traducteurs qui ont traduit ces textes. Et les essais, ou bien des articles, parce que je participe parfois à des revues comme Europe ou autres à Paris, ça, je les écris directement en langue française. Les essais ou bien les articles. Ouais.
Et pourquoi ? C'est plus facile au niveau littéraire ?
Je ne sais pas, parce que quand on s'approche de la poésie, moi j'écris de la prose poétique, oui, où la poésie est omniprésente, je sens qu'avec la langue maternelle, c'est autre chose. Je peux aller beaucoup plus loin en moi-même, d'abord, dans les sujets que je traite ou bien que j'aborde.
Mais du coup, dans l'écriture, enfin là, par exemple, je vous pose cette question parce qu'on entend qu'effectivement, il y a une traduction quand même, que sans doute le flux de la prononciation n'est pas la même, l'enchaînement des mots non plus.
Oui, surtout que les syntaxes sont tout à fait différentes, c'est vrai.
Ouais. Et cette gymnastique du passage au français que vous maîtrisez pourtant bien, vous paraît juste ?
J'ai pas osé encore. Il y a beaucoup d'amis à moi, même des écrivains français, qui m'encouragent à écrire. Et ils me disent, nous sommes là pour relire le texte, et s'il y a des corrections à faire, nous allons les faire. Ouais. Mais jusqu'à présent, quand je prends la plume, bien quand j'écris directement sur l'ordinateur, j'écris en arabe, les textes intimes. Ouais. Voilà.
Et vous en êtes content de vos traductions ? Les traductions qui ont été
oui,
faites.
Oui, mais je souffre aussi,
ah oui,
parce
voilà,
que c'est une vraie souffrance. Ouais. Quand il s'agit d'une autre langue, comme le grec par exemple, ou bien le chinois, le japonais, l'anglais, je connais l'anglais, l'espagnol, je connais l'espagnol, le français, je connais le français. Quand les textes sont traduits dans des langues que je connais, là commence la tourmente. Pourquoi ? Parce que je ne vois pas parfois mon texte original tout à fait dans le texte qui a été traduit. Parce que la traduction doit trahir le texte original pour qu'elle puisse arriver à un rythme, à une sorte d'équivalent. Mais il ne faut pas traduire mot en mot. Surtout quand il s'agit d'un texte où il y a de la méditation, de la philosophie, de la poésie. Là, il faut être poète, philosophe, pour pouvoir traduire ce genre de texte.
Vous étiez présent sur le festival Est-Ouest, et encore d'ailleurs, puisqu'il n'est pas tout à fait fini. Pourquoi précisément ? Présentez vos œuvres.
Moi, j'étais invité en tant qu'écrivain libanais, parce qu'ils ont invité une dizaine d'écrivains libanais, des artistes aussi, musiciens, penseurs. Moi, je viens avec tous ces écrivains et artistes pour présenter mon œuvre et pour parler d'autres choses aussi, comme c'est le cas maintenant ici. Voilà. À partir de l'œuvre, par exemple, dans ce texte qu'on a lu au début de cette interview, le texte touchait l'actualité. Mais il va au-delà, bien sûr, quand on écrit à partir d'un certain réel. Et comme on l'a déjà dit, c'est un texte qui touche l'humain, qui essaye d'être intemporel.
On arrive au terme de cet entretien, Issa Maklouf. Et déjà d'avance, je vous en remercie puisque c'est un beau portrait qu'on vient de réaliser. Vous vouliez qu'on se quitte avec un extrait de cet ouvrage Mirage que vous avez publié en 2004 sur les éditions Corti, ça pour sa version française.
Tous mes livres ont été publiés aux éditions José Corti à Paris. Et à partir de cette traduction, je vois d'autres traductions aux États-Unis, en Italie ou bien dans d'autres pays du monde. Mirage était le premier livre publié chez Corti. Ce livre, je le commence avec un texte qui s'intitule « Partir ». Et j'espère que ce texte répond à ma place à des questions auxquelles je n'ai pas bien répondu ou bien j'ai répondu d'une façon partielle. Ce texte s'intitule « Partir ». Nous partons pour nous éloigner du lieu qui nous a vu naître et voir l'autre versant du matin. Nous partons à la recherche de nos naissances improbables, pour compléter nos alphabets, pour charger l'adieu de promesses, pour aller aussi loin que l'horizon, déchirant nos destins, éparpillant leurs pages avant de tomber quelquefois sur notre propre histoire dans d'autres livres. Nous partons vers des destinées inconnues pour dire à ceux que nous avons croisés que nous reviendrons et que nous referons connaissance. Nous partons pour apprendre la langue des arbres qui, eux, ne partent guère, pour lustrer le tintement des cloches dans les vallées saintes, à la recherche de Dieu plus miséricordieux, pour retirer aux étrangers le masque de l'exil, pour confier aux passants que nous sommes, nous aussi, des passants, et que notre séjour est éphémère dans la mémoire et dans l'oubli, loin des mers, qui allument les cierges et réduisent la couche du temps à chaque fois qu'elles lèvent les mains vers le ciel. Nous partons pour ne pas voir vieillir nos parents et ne pas lire leurs jours sur leur visage. Nous partons dans la distraction de vie gaspillée d'avance. Nous partons pour annoncer à ceux que nous aimons toujours que notre émerveillement est plus fort que la distance et que les exils sont aussi doux et frais que les patries. Nous partons pour que de retour chez nous, un jour, nous nous rendions compte que nous sommes des exilés de nature, partout où nous sommes. Nous partons pour abolir la nuance entre air et air, eau, ciel et enfer, riant du temps. Nous contemplons désormais l'immensité, devant nous, comme des enfants dissipés, les vagues sautillent, pendant que la mer file entre deux bateaux. L'un en partance, l'autre en papier, dans la main d'un petit. Nous partons comme les clowns qui s'en vont de village en village, emmenant les animaux qui donnent aux enfants leur première leçon d'ennui. nous partons pour tromper la mort, la laissant nous poursuivre de lieu en lieu. Et nous continuerons ainsi jusqu'à nous perdre, jusqu'à ne plus nous retrouver nous-mêmes là où nous allons, afin que jamais personne ne nous retrouve.
Merci, Issa Maclouf.
Merci à vous.